Bienvenue au Polysécur épisode technique, je suis accompagné de Kim.
Bonjour.
Ça va bien?
Très bien.
C'est vendredi.
Aujourd'hui,
on va aborder le volet de recon, de reconnaissance, c'est-à-dire tous les éléments qui sont finalement préalables à l'exécution de l'attaque elle-même. Alors, on va commencer par le volet plus passif et on va glisser progressivement vers les volets plus actifs où il y a une intervention plus directe sur comment on l'exécute. Fait que je vais te laisser commencer par les premières stratégies passives.
Oui, mais on s'entend que la reconnaissance fait souvent partie presque intégrale du mandat où on passe de 50 à 70% du temps juste à stalker notre cible puis voir comment qu'on va s'y prendre pour être en mesure de l'exploiter. Donc, tout premièrement, on va commencer par les bonnes vieilles recherches sur Internet, qu'est-ce qui est disponible publiquement à tout le monde, sans nécessairement aller trop poking notre cible. Dans le sens où si tu vas voir son LinkedIn, ben il va falloir se créer une persona pour pas qu'elle voit Monsieur Red Teamer a commencé à surveiller le profil de telle personne ou à stalker votre profil. Disons que c'est vite brûlé dans ces cas-là, ou quand tu fais du scalping de leur site ou de la recherche ou de les ajouter sur des médias sociaux, ben à un moment donné, ça devient louche. C'est une adresse vraiment spécifique que tu sais qui fait ça. Bien qu'à t'envoyer 1000 requêtes dans la même heure, ça pourrait lever des soupçons à la Blue Team qu'il y a quelque chose qui s'en vient.
Oui, justement, le but, c'est de passer en dessous du radar. Justement, ce genre de stratégie au niveau passif, quel genre de stratégie qui existe justement pour pas créer ce bruit-là?
Ben, tu essaies de littéralement ne pas toucher à la personne directement. Donc, tu vas toujours utiliser un broker, si je peux dire. Dans l'exemple de LinkedIn que j'ai pris tantôt, tu vas te créer une persona, tu vas te rajouter plein de gens pour pas que ça soit toi directement qui va voir la victime, mais un broker random qui n'a pas de lien rattaché à toi. Ou si tu vas poker le site Internet, ben tu peux faire les requêtes, mais tu vas faire une rotation sur ton adresse IP via un API gateway, par exemple, qu'on pourrait setter sur AWS. Comme ça, oui, le client a des requêtes, mais si ça vient jamais de la même adresse, il y a peu de chances qu'il soit en mesure d'attribuer à cette telle compagnie qui est en train de me surveiller et de collecter de l'information sur moi. Après ça, il y a tout ce qui est collecteur passif comme Shodan qui pourrait être utilisé ou des bases de données de collection, les archive.org, par exemple, qui garde les pages web en cache, qui peut avoir de l'information dedans. Ce genre de source-là, il n'y a aucun moyen vraiment que la compagnie soit en mesure d'attribuer que c'est la compagnie X qui est en train de me surveiller. Donc, je vais finir le mandat, là.
Ouais, ben surtout que sur un genre un site web ou des éléments comme ça, généralement tu vas te faire perdre dans un flow normal d'éléments. Fait que ça, mais un profil LinkedIn, ça laisse un peu plus de traces que justement tu es en train de faire des démarches comme ça. Ces profils-là, j'imagine que là, tu mentionnes un profil qui est pas vide parce que tu sais, une personne avec zéro contact. Ce sont la première personne. Moi, quand j'en vois un qui est avec zéro contact qui me poke sur LinkedIn, c'est la première chose que je le flush tout de suite parce que c'est un danger potentiel. Mais cela étant dit, j'imagine que vous avez des profils semi-permanents qui servent justement à ce genre de manœuvre-là.
Définitivement, puis plus qu'un. Je veux dire, de se créer différents types de personas pour s'obtenir des liens de confiance avec certaines personnes, ça prend du temps, puis ça fait partie un peu du tradecraft qu'un Red Teamer doit se monter dans le temps pour essayer d'aller toucher différents secteurs ou de pousser ses ingénieries sociales un petit peu plus loin. J'aime souvent prendre l'exemple du recruteur. Un recruteur, c'est facile de se monter pour lui un réseau de contacts sur LinkedIn de 800, 900, 1000 personnes et plus, voire parce que tout le monde va accepter la demande d'un recruteur parce qu'ils ont l'habitude d'offrir des jobs et on veut pas se brimer des opportunités potentielles. Fait que tout le monde clique oui sur un recruteur, surtout s'il a brush up un peu son profil. T'sais, en tant que Red Teamer, je l'encourage à tous mes gars, moi, qui sont dans mon équipe. Prends-toi-en une dizaine random, prends-toi une petite partie de l'expérience de où est-ce qu'il a fait son truc, tu copies ça, tu le mets dans ton CV. Après ça, l'autre recruteur, ben, tu le prends, tu le mets dans ton CV. Ah, mais le troisième, tu vas prendre sa durée, ses dates. Puis tu vas te monter un profil qui a de l'air legit avec des mots qui sont utilisés, mais qui est totalement bidon. Puis ça te donne énormément de poids quand tu contactes quelqu'un juste pour downloader au pire ton fichier malicieux ou d'envoyer un CV comme « Ah, j'ai vu tel poste intéressant. Bon, ben j'ai déjà une persona de sysadmin qui répond aux critères parce que je l'ai modifié un peu avant. Donc, elle a déjà un bon background. Je suis le candidat idéal. Puis j'envoie mon CV à la personne. Puis dans le CV, ben il y a un attachement malicieux ou quelque chose. » C'est triste, mais les ventes et les gens qui font le RH sont souvent ceux qui sont les plus targetés. Ils se font tellement bombarder de plein de choses, c'est terrible.
C'est les cibles les plus faciles. Mais tu sais, de mon expérience avec LinkedIn, entre autres, justement, il y a plein de choses parce que je dois avoir des faux profils qui sont liés à moi d'une façon ou d'une autre là, parce que j'ai tellement de recruteurs qui existent. Mais les recruteurs, justement, c'est même pire que ça. Je fais même pas attention s'ils sont de recruteurs. Je commence pas à analyser les choses. Je vois, c'est un recruteur X. Bon, OK, on va le laisser passer. C'est sûr qu'il va m'écrire un message privé pour me dire, j'ai un job pour toi. T'es le meilleur au monde puis j'aimerais ça t'avoir. Fait que c'est les stratégies très j'en ai même quand l'audace m'a envoyé des fichiers, là, je suis comme ouais, non, mais calme-toi, là, ton fichier.
La meilleure façon de se cacher, c'est de se cacher dans une foule, d'avoir de l'air comme tout le monde. Je veux dire, c'est très dur à un moment donné d'analyser sur 1000 personnes qui te contactent dans le mois, c'est qui est la personne legit là-dedans. Tu sais. Il y en a que tu le vois définitivement juste avec l'écriture ou le visage que c'est un robot qui a monté ça ou que. Tu sais, ça va être quelqu'un en Inde qui fait ça à la chaîne puis qui n'a pas le temps à perdre. Justement, comme tu dis, qui a zéro ami ou contact. Mais threat actor un peu plus poussé, quand tu augmentes le niveau de simulation, ça peut être intéressant à ce moment-là.
Ouais, ben c'est ça. Mais ça, on le vit tous. Fait que j'imagine que ça doit probablement interpeller bien des gens. Puis je suis sûr qu'après l'écoute, il y en a plusieurs qui vont les regarder dans leur profil. Il n'y a pas du monde qui ait des faux profils qui existent dans les là. Je suis sûr que j'en ai une foule qui doit être de faux profils qui doit exister dans mes affaires. Mais bref, comme je réagis peu à cet univers-là, je suis pas une cible, je trouve pas les mots difficiles pour t'envoyer. Puis généralement, si tu me harcèles trop à me parler, je te bloque.
C'est une bonne pratique.
Moi, si tu essaies de me vendre un produit sur LinkedIn, t'es bloqué. C'est bref, je suis pas ça, mais j'ai tellement de monde, j'ai tellement de probablement de robots ou de choses qui doivent exister. Fait qu'effectivement, c'est très drôle. Puis j'aime bien l'idée de se cacher dans une foule. Là.
On parle de LinkedIn, mais ça peut être autant Instagram, Facebook ou n'importe quel autre média social. C'est juste que LinkedIn est plus facilement ouvert parce qu'il permet d'avoir 3 contacts. Mais souvent, dans ce genre de mandat-là, quand une entreprise me dit « Ah, tu sais, on va avoir Red Team ou Ingénierie sociale, j'ai mes personas, puis soudainement, je fais des recherches juste sur les employés qui existent, je me mets à rajouter un peu n'importe où pour obtenir de l'information. » Si le client, bien sûr, autorise ça dans le scope. Parce que des fois, les gens disent « Ouais, mais c'est mon Instagram personnel, ouais, mais t'as les badges de l'entreprise qui peuvent être pris. Je peux avoir les photos de ton bureau parce que tu as montré, regardez mon beau setup que j'ai au bureau, c'est écœurant. Je vais maintenant rendre ça 3 écrans, mais on voit les numéros de téléphone, on voit des fois des mots de passe, on voit le type de laptop qui est utilisé. Des fois, même des numéros d'appareils qui pourraient aider à l'ingénierie sociale pour plus tard, dans le fond, dans certains contextes.
Ouais, toute information est valide, puis ça dépend où les personnes vont mettre sur LinkedIn, c'est facile parce que c'est un réseau professionnel, mais ça dépend comment les personnes réagissent, ils vivent dans leur propre réseau. Là. Instagram est une source infinie d'images et de choses que probablement que les gens ne devraient pas diffuser autant de choses que ça, là, mais on l'a vu avec les Ostrogoths qui se sont fait prendre dans un avion à un moment où ils n'étaient pas supposés dans un avion pas de masque. Donc, effectivement, quand on crée un peu trop de bruit, ça, c'est un exemple de genre une chose à ne pas faire, mais qui aide justement quand on a des scénarios de OSINT à exécuter puis aller lever. Là. Mais ça, c'est une chose. Après ça, il y a d'autres stratégies de récolte d'informations de ce type-là.
Je dirais à part tout ce qui... Ben, tu sais, ça couvre pas mal tout ce qui est open source. Après, c'est sûr certain qu'on va tomber plus dans l'actif. Où on va devoir commencer à interagir avec les sources, soit directement ou indirectement. ce que je veux dire par là, c'est si je me mets à appeler les gens ou que je demande à des tierces parties qui interagissent avec la compagnie ciblée, ça peut commencer des fois à soulever des soupçons. Donc, on doit toujours être plus prudent quand on commence à faire cette étape-là, parce qu'il s'agit qu'on ait de l'air un peu trop louche, puis que la compagnie vienne entendre que des gens se posent des questions qui vont renforcer leur sécurité. Il y a des gens que avant le mandat, ils étaient tous prêts, ils ont fait leur reconnaissance, mais ils ont posé juste 2-3 questions à des gens qui ont mis une alerte, puis le jour de leur intrusion sont arrivés, la police était là, tout était barré, puis c'est fini. Il n'y a rien que tu peux faire parce que tu es brûlé même avant de commencer.
Ouais, c'est la place la plus dangereuse, parce que des fois, les questions peuvent s'avérer un peu trop insistantes, puis les gens soulèvent l'alarme. De toute façon, on le voit avec les concours de social engineering, avec le DEFCON principalement, où justement, là, on a le pleine expérience de commencer dans les délais. C'est sûr que ça c'est très synthétique comme activité, puisque le temps est très, très court pour arriver à l'exécution de leur périple, parce qu'un un vrai mandat de red team s'exécute sur plusieurs semaines, c'est pas voire plusieurs mois. Donc, c'est un peu compressé, cette expérience-là, mais faut pas brûler, justement, pas le soulever le soupçon et avoir l'air crédible. Et dès que tu commences à poser des questions, puis je suis le premier, quand je commence à me recevoir des questions, là, je suis toujours un peu sur un pied d'alerte, parce que je sais pas trop où tout ça se dirige. Puis fait cocasse, parce que je comprends pas encore ce qu'ils puissent le faire. Là. J'ai déjà été invité à dîner à une certaine époque par des vendeurs pour essayer de me sortir l'information de mes clients, pour essayer de leur vendre des produits. Et je fais comme, ouais, non, j'ai pas le droit de te parler de ça, mais je t'en parlerai pas. Bel essai.
Le bouche à oreille, puis pas nécessairement de l'argent sous la table ou quoi que ce soit, mais de flatter puis d'amener puis d'essayer de faire parler les gens. C'est une tactique d'ingénierie sociale qui est utilisée énormément en vente, qui est tellement répandue, là. Puis, tu sais, tout le monde a de la difficulté avec ça. On le voit en politique, on le voit en vente, on le voit dans tous les domaines, là. On pense des fois bien faire, mais il faut se retenir à un certain niveau, là.
Ouais, il faut avoir la vigilance nécessaire. Du volet aussi, mais là, tu as parlé plus de volet humain, mais il doit y avoir un volet technologique. Tu as parlé vaguement de Shodan, mais il doit y avoir d'autres stratégies que vous utilisez pour collecter de l'information.
Oui. Une des sources intéressantes, c'est toutes les technologies. Donc, souvent, si tu vas sur la page de l'entreprise, tu es en mesure d'avoir, on est partenaire avec, je vais dire des choses random, on est partenaire avec Oracle, on est partenaire avec Splunk, on est partenaire avec un tel. Ben moi, derrière, je me dis, si tu as été de chercher un partenariat, tu as sûrement un bon discount. Tu utilises sûrement leur technologie. Surtout si après ça, je vois que tu cherches un sysadmin ou un DBA qui se spécialise en Oracle après, j'ai un bon in que tu dois avoir de l'Oracle qui roule derrière. T'sais. Je me cherche un intégrateur Cisco pour notre infrastructure, machin truc. Puis tu as un partenariat avec Cisco et tout ça. Je suis pas mal sûr que tout ton équipement à l'interne va être du Cisco. Ce genre d'information-là est très bonne. Des fois, ça va être juste les nouvelles. Un nouveau deal de 1,2 million a été signé avec telle entreprise pour la réforme de telle chose. Bon, c'est déjà un point. Des fois, les Google Reviews, c'est très intéressant. Les gens qui quittent une entreprise qui se met à un peu bitcher sur l'entreprise, ou juste les clients qui disent « Ah, je suis pas content de telle affaire, ils ont essayé de répliquer tel système sur mon environnement, puis ça valait rien. » Ou les gens sont très bavards quand ils sont pas contents, ou même des fois quand ils sont contents. « Je te remercie, tu as fait tellement la meilleure job à m'installer tel système sur mon truc. Merci, tu viens de me dire quel système que tu as. » C'est des sources qui peuvent être nécessairement pas au niveau social, mais qui peut refléter au niveau technologique. Sinon, tout ce qui est scan, on s'entend, on tombe dans l'analyse de vulnérabilité, mais les scans et le map classiques, aller obtenir les headers, tu vas avoir plein de divulgations qui sont faites, des technologies qui sont utilisées. Un plugin que j'adore, c'est Web Analyzer, que quand tu fais juste passer sur la page, tu donnes toutes les versions des plugins qui peuvent être en mesure de détecter. Donc, c'est des choses qui est facile à collecter, qui n'a pas vraiment de façon de savoir que quelqu'un est en train de ramasser l'information sur toi pour emmener une attaque plus tard. Puis des fois, c'est pas juste pour crafter un payload particulier, mais pour renforcer un contexte qui va être réutilisé. Disons, je sais que tes ventes font des meetings avec WebEx. Bon, mais pourquoi pas envoyer un payload malicieux qui est un updater pour la plateforme WebEx? D'envoyer du sysadmin, ah, il faut que je mette à jour mon WebEx. On va cliquer là-dessus, c'est ça que j'utilise. Ça peut être utilisé de telle façon.
Ouais, ben oui. Oui, sur ces éléments-là. C'est ça, mais là, c'est ça, j'étais curieux de savoir à quel point vous utilisez des outils non bruyants, parce qu'un Nmap est de par nature très bruyant. Comme dans le fond, on fait un scan Nessus, puis on le voit passer là, gros. Là. Dans ces perspectives-là, y a-t-il des stratégies que vous utilisez justement pour être un peu plus incognito?
Oui. J'aime bien gros l'utilisation de d'API Gateway pour faire de la rotation d'IP. Ça rend la chose énormément difficile à tracker. Il y a beaucoup d'outils maintenant qui t'es en mesure d'y configurer un proxy avec des outils comme Fireprox qui existent, où tu vas te setter un API Gateway dans AWS avec une couple de Lambda. Le Lambda reçoit la requête, il pitch ça à l'API. Lui, il se prend une adresse dans le pool d'AWS, puis il pitch la requête sur le site. À chaque requête que le site, que l'outil va faire, il va avoir une nouvelle adresse IP. Tu peux même randomiser le user agent. Donc, tu te fais une petite liste de user agents les 100 les plus connus. Donc, tu n'as jamais la même adresse IP, jamais le user agent qui est pareil. Essaye de découvrir que la personne vient de poker. C'est une très bonne tactique. Des fois, certains clients, les clients plus avancés, ils vont être en mesure de mapper les adresses de sortie des VPN. Donc, je dirais que c'est pas nécessairement... Tu sais, le VPN va pas être nécessairement la façon de faire ta recon incognito. Parce que si tu as 1000 requêtes qui viennent toutes de la même adresse IP d'un VPN, tu sais très clairement que le gars essaie de se cacher, peut-être d'une façon un peu boboche, mais il essaie quand même de cacher son identité. Tu sauras pas c'est qui, mais tu sais qu'il y a une attaque qui va peut-être s'en venir. C'est pour ça que j'aime de se cacher au travers de la foule. Et on s'entend aussi que de filtrer sur une adresse IP, c'est facile de sortir 1000 logs de tes trucs, même si c'est fait dans le temps. Mais si je le fais sur des choses random, difficiles à avoir un certain pattern étendu sur le temps. Donc, je le fais pas tout. Demain matin, je me lève, je m'attaque à toi, tu vas avoir plein d'alertes, mais je me donne 2 mois. Tu sais, dans 2 mois, temps perdu, je vais aller checker tel site. Je vais aller checker tel autre site. Puis, dans 2-3 jours, je vais checker telle personne. De corréler ça ensemble, le nombre de data que tu dois, sauvegarder dans tes logs pour une Blue Team est énorme. Il y a peu de compagnies que je sais qui vont garder plus que 7 jours, voire une semaine, 2 semaines ou 1 mois de data. Donc, à un moment donné, tu viens qu'à perdre la possibilité de recréer un nouveau pattern. Donc, le temps peut être un facteur déterminant. Si on pense à la NSA, hein, s'il y en a bien un qui s'est fait avoir de façon, tu sais, pas 100% passif, parce que 100% passif, c'est tu touches jamais à la target. Mais de façon active, sans qu'ils le voient nécessairement, c'est bien eux. Ou la personne a réussi à rentrer dans leur système un moment donné puis de voler des trucs comme Eternal Blue et tout ça. Mais elle n'a pas fait ça du jour au lendemain, dire « OK, aujourd'hui, j'attaque la NSA, go, on rentre, clac! » Non, 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 ça a été un travail de plusieurs mois, voire plusieurs années, tu sais.
Ben, entre autres, puis de toute façon, je pense pas qu'il y avait une cible spatiale. Ils ont pas fait comme « on va aller voler Eternal Blue », ils ont fait comme « on va rentrer et on va regarder ce qui nous est disponible un peu ». Puis d'ailleurs, de toute façon, à certains égards, les malveillants de type rançon logiciel vont souvent faire ça, ils vont rentrer, vont faire une première exploration, voir si c'est de l'information sensible à exfiltrer. Puis basé sur ça, ensuite, ils vont faire du chantage spécifique aux choses. Le petit avantage qu'on a au Québec, c'est généralement ils ont bien de la misère avec le français. Ils ont beaucoup de facilité avec l'anglais, avec le français. Ils essaient de comprendre nos données, puis ils essaient de nous faire chanter sur des données qui valent essentiellement pas grand-chose. Fait que là, ça donne une affaire un peu comique dans certains égards, mais effectivement, quand ils rentrent, puis c'est pour ça que les temps sont longs. Dans le fond, dans votre recon aussi, le temps est long. c'est d'aller chercher voir qu'est-ce qui est intéressant. L'avantage que vous avez, c'est que les cibles sont déclarées. Les malveillants, les cibles ne sont pas déclarées comme dans le cas de la NSA. En fait, ça a été long avant qu'ils trouvent probablement l'information qui était pertinente.
Mais j'aime ton point. C'est vrai qu'au Québec, on a quand même ce côté-là où on se fait un peu protéger via notre culture et nos expressions, notre langue, de la façon qu'on écrit, de la façon qu'on interagit, qui est déjà une bonne chose. Là, qui des fois vient un peu plus problématique, c'est les communications en anglais. Des fois, on est peut-être moins à l'aise ou, je sais pas moi, la maison mère est à Toronto puis on se fait communiquer deux autres. Des fois, ça peut rendre certaines entreprises qui sont dans plusieurs provinces à risque. Vu qu'ils vont être moins à l'aise. On l'a vu, ou même à l'interne, ces fois, des compagnies où on fait une campagne de phishing, ils se sont fait racheter, ils connaissent pas la maison, mais ils sont un peu partout dans le monde. Ça te donne tellement de possibilités pour te faire passer pour quelqu'un, puis là, essaie de valider, t'es pas au courant de qu'est-ce qui est normal dans ce nouveau contexte-là. Même principe que d'essayer de soutirer des informations à un stagiaire. Il ne sait pas si c'est normal ce genre d'interaction-là via les employés. C'est aussi une très bonne cible.
Ouais, ben c'est ça. Ça devient plus compliqué. Puis effectivement, ça, c'est l'autre stratégie. Mais là, d'utiliser l'anglais ou une autre langue, tout dépendant du contexte, on va avoir tendance à vouloir essayer de bien faire. Et d'autant plus d'essayer de bien faire dans une langue qui n'est pas la nôtre. Donc, on va faire un effort particulier. C'est très intéressant, cet axe-là. Si on migre un peu plus vers les attaques un peu plus actives, c'est-à-dire on va toucher de façon plus forcée. Tu mentionnais justement de faire attention pour ne pas brûler ses cibles, mais il y a beaucoup de stratégies à prendre puis justement d'amorcer le volet plus actif.
Oui, mais c'est toujours dépendamment de c'est quoi l'objectif à atteindre, qu'est-ce qui est à faire. Si c'est de mettre exemple un malware sur un système puis de réussir à faire du mouvement latéral à l'interne, c'est reptile totalement informatique. Tu vas essayer de chercher c'est quoi les informations qui roulent, c'est quoi les versions, c'est quoi l'antivirus, un peu les concours qu'on fait d'ingénierie sociale, on l'a vu au WACFest, on l'a vu à DEFCON. C'est une grille d'informations qui est très pertinente puis que les gens essaient toujours de savoir. Si tu me dis que tu roules du Windows 10, que tu utilises du McAfee à l'interne, ben ça me donne déjà un bon in que je vais pas essayer d'installer un Sophos sur du Windows 11 puis de voir ce que je suis capable de le bypasser. Tu sais. La militarisation de tes payloads est un autre aspect qui est très technique, mais c'est vite facile de brûler du temps dans le beurre sur quelque chose qui n'existe pas au final. T'es mieux de prendre une semaine ou deux de reconnaissance pour travailler sur le bon sujet que de juste tenter différents payloads pour un moment donné, puis être capable de rien faire chez ton client. Ça, c'est au niveau de la technologique, mais tu peux aussi utiliser du phishing, donc appeler tes cibles, envoyer des courriels. C'est sûr, si tu envoies un courriel à 20, 10 personnes, toutes la même affaire, ça fait louche, c'est difficile de pas te faire remarquer dans ce contexte-là. Mais si tu te fais un petit G Suite gratuit avec un nom de domaine qui t'a coûté 2$, t'as de l'air legit, t'as un courriel qui vient d'une entreprise, tu contactes les ventes pour une question X, savoir est-ce que vous avez telle affaire, je veux savoir si vous maîtrisez bien le produit, le vendeur te répond, oh oui, on a ça. Bon, ferme ton trial G Suite, crée-toi un autre domaine, un autre G Suite, contacte-en un autre pour une autre question. Tranquillement, pas vite, tu es capable d'avoir de l'information privilégiée qui apparaît pas à l'externe, puis te monter dans le fond une base que tu vas pouvoir utiliser après.
Ouais, ben là, ça devient intéressant. Là, tu commences à aborder le facteur humain. Là, tu parlais de courriel ou de domaine, mais j'imagine aussi que vous faites des appels, vous faites des transferts entre personnes. Puis de fond, l'escalade, ça augmente avec plus de ramasser d'informations, plus la personne suivante qui passe dans la moulinette et a de l'information qui est de plus en plus crédible, mais justement qui l'amène à divulguer de plus en plus d'informations.
C'est sûr, plus que tu vas deep avec l'humain, plus que tu dois faire attention puis tu dois échelonner dans le temps. Je veux dire, si je veux essayer, mon but, c'est de parler au sysadmin derrière puis je commence avec le service desk, je parle à une autre personne, je parle à une autre personne. Ça commence à faire beaucoup de personnes dans la chaîne qui sont au courant que quelqu'un essaie d'avoir de l'information. plus que tu parles avec des gens, plus qu'il y a de chances que au final, ton information soit brûlée ou que les employés se mettent à parler entre eux autres comme « Hey, j'ai reçu un appel de telle chose. Ah, moi aussi. Ah, moi aussi. » Ah, ben c'est louche, là. On s'entend que normalement, dans ton day-to-day, tu es à job, tu te fais dire « Ah, il me faut telle information. » OK. Qu'est-ce que tu fais? Il faut toujours penser, c'est quoi qu'un employé legit dans cette position-là, frère? J'appelle la compagnie pour savoir le numéro d'une pièce. Exemple, là, j'ai besoin de savoir le numéro de la salle de serveur. Bon, ben, je vais essayer de réfléchir à mon contexte, un réaménagement pour une inspection, disons, d'amiante ou whatever. Bon, ben, si tu appelles la compagnie 10 fois pour savoir c'est quoi le numéro de la salle de serveur, c'est louche. On s'entend que si l'employé te dit je ne sais pas, je ne sais pas pantoute qui peut t'aider sur le sujet, un, soit peut-être pas à bonne place. Peut-être qu'il ne peut vraiment pas t'aider. Peut-être qu'il ne voudra pas t'aider non plus. Mais de rappeler de nouveau, t'aidera pas plus puis risque de te nuire plus que d'autres choses. T'es mieux d'essayer de penser à un autre sujet ou une autre façon d'obtenir l'information puis de faire appeler ton collègue avec quelque chose de totalement non relié quelques semaines plus tard pour justement qu'il n'y ait pas de liaison ensemble. Même principe que les logs, il y a une limite à ta mémoire sur un petit call comme ça que ton cerveau va retenir dans l'immédiat. Ou tu feras peut-être pas le lien comme « Ah, c'est vrai, là, 3 semaines, quelqu'un m'a appelé pour un truc d'amiante quand tu te fais appeler présentement pour un déplacement de mobilier ou quelque chose comme ça. »
Ouais, intéressant. Oui, très intéressant. Là, je me regarde juste comment moi je réagirais par rapport à ce genre de situation-là. Et un peu aussi, on le voit, là, c'est ce que tu mentionnes aussi, on le voit un peu dans les films, entre autres. Là. C'est sûr que c'est exagéré. Là, on s'entend là, que ça ce qu'il représente comme dans CSI se fait ce qu'il fait en une demi-heure se fait genre en 3 semaines ou en 3 mois dans la vraie vie. Là. Mais c'est très intéressant de voir justement les fenêtres de temps. Puis dans le contexte d'exécution de mandat, parce que là, si ça prend 3, 6 ou 9 mois avant d'exécuter tout le scénario d'un recon qui est préalable, j'imagine que c'est prévu au contrat de cette nature-là.
Oui, bien c'est sûr et certain qu'il ne faut pas que ton client, quand tu signes une red team, qu'il se dise « Ah, je m'attends que dans 2 semaines, j'ai mon rapport. » Oui, OK. Il y a 0 recon. Tout est ce qu'on avait déjà parlé dans un autre épisode où c'est quoi le niveau de threat actor tu veux simuler. Si je suis un étudiant qui est juste vengeful puis je rentre, on s'entend que je suis capable de t'émettre ton rapport dans 2 semaines, 2, 3 semaines parce que j'ai pas de recon à faire. Je vais rentrer, je vais essayer de break in pour faire quelque chose puis d'improviser. Si je suis une autre entreprise qui essaie d'espionner ou d'implanter des appareils de surveillance, pas au niveau de state actor, mais juste un entre deux, prendre 2-3 mois le temps d'analyser qu'est-ce qui se passe à différents moments de différentes journées ou de semaines est totalement legit pour un client pour avoir le vrai feeling de qu'est-ce qui peut se passer, d'avoir de quoi de prémédité, comme qu'on dirait. Puis on s'entend que c'est sûr et certain que tu vas pas être 12 heures dans ton char à juste surveiller la porte pendant 2 semaines de temps pour absolument avoir tous les allées et venues. Ça serait vraiment plus state actor. Mais une journée, juste OK, quand est-ce que les employés rentrent au bureau? C'est quoi le beat normal? Ah, tu vois qu'il y a une vague à 7h30, à 8h. OK, c'est bon. Quand est-ce qu'ils vont dîner? Ah, ils ont pas l'air de sortir par la même porte quand ils vont dîner. Ah, ils sortent tout en avant. On va aller en avant. On check. OK. Ils utilisent plusieurs portes. C'est bon. Ça donne un contexte où ne pas aller à certaines heures. Quand est-ce qu'ils sortent le soir? Ah, ils sortent là. Comment ils sont habillés? On s'entend que si tu essaies de rentrer à une tour, exemple la BNC ou Hydro-Québec, puis tu es habillé en coverall, ben, à moins que tu sois passé pour quelqu'un de l'immeuble ou quelque chose et même encore, ça fait louche. Mais vas-y en veston cravate, pas en veston cravate, mais juste une chemise puis un pantalon propre avec un lanyard. Déjà là, il y a pas mal plus de chances que tu fites parmi la masse des gens qui ont là. Tu vas peut-être avoir de l'air d'un client, tu vas peut-être avoir de l'air d'un nouvel employé. Who knows? Mais ça fait déjà plus. Par contre, tu arrives en chemise puis pantalon propre dans des places qui sont beaucoup plus petites. Exemple, que je pourrais prendre une ville ou une entreprise privée, une usine. Tu vas clasher solide avec ta chemise puis ton pantalon propre. Là. Puis même principe, si tu n'as pas pris le temps d'user tes vêtements, tu te prépares tout ton contexte, tu arrives, tu as un beau pantalon neuf qui est shiny, il y a encore presque l'étiquette dessus. Là. T'as pas, y a bien des chances que quelqu'un, soit qu'il te dise que tu travailles pas fort ou que tu as de l'air un peu suspect. C'était un des deux.
Oui, il faut fitter dans le rôle tout le temps. C'est ça. Aussi, puis ça revient, tout ça est une pièce de théâtre. Puis il faut la jouer dans le rôle dans lequel on est supposé être, puis ça va aider. Dans mon quotidien, sans faire du red team, c'est normal d'adapter le contexte, mais c'est d'autant plus intéressant que dans un contexte de red team, c'est vraiment respecté et probablement étudié en amont, parce que quand tu te présentes dans l'usine ou dans le bureau, ben tu l'as fait le recon avant, qui te prépare comme personne à t'habiller justement sur le bon set ou sur la bonne façon justement pour pouvoir avoir l'air d'un bouffon qui se présente sur place puis de complètement blower ton cover là.
Ça, c'est le côté physique, mais c'est la même chose aussi quand tu appelles les gens. À un moment donné, tu viens qu'à voir c'est quoi le pattern des courriels, comment qu'ils écrivent avec leur bloc signature. Certains départements mettent le bloc complet, d'autres départements ne le mettent pas. Tu vas avoir des gens dans l'entreprise qui vont mettre juste leur nom, d'autres vont avoir le titre. Si tu viens qu'à vouloir te faire passer pour quelqu'un, c'est bon de savoir comment il interagit avec ses collègues aussi. Je me souviens, on avait fait une campagne un moment donné où notre point, ça a été littéralement on a contacté une personne. Elle a dit, OK, je te recontacte bientôt. Bon, on a attendu un peu. On a su qu'elle était partie en vacances. On a recontacté l'entreprise. Et, telle personne me dit qu'elle m'enverrait l'information. Je ne l'ai toujours pas reçue. Puis, tu sais, on a modifié un peu le courriel qu'on avait reçu pour que ça allait de l'air comme un reply. Qui a été vers, dans le fond, une mailbox redirigée. Et la personne a fait « ma collègue t'a déjà parlé, ça veut dire que t'es déjà legit. » Il y a déjà eu un screening qui a été fait à ce niveau-là. Puis tu sais à quoi t'attendre comme signature, tu sais à quoi t'attendre comme retour de la personne. T'as déjà réussi à parler avec eux autres. Peut-être que t'as parlé avec eux autres, puis la façon que t'as interagi, t'as totalement brûlé. Ben, tu vas refaire quelque chose avec un autre non-client, mais cette fois-ci, tu vas savoir comment t'y prendre. Fait qu'il faut pas non plus avoir peur de se brûler dans certains contextes, tant si longtemps que ça soit pas final. T'sais.
Ouais, c'est ça la question que je vais en diriger, puis ça t'as bien abordé. Comment tu détectes que tu étais brûlé? Parce que des fois, c'est pas nécessairement évident que c'est apparent que tu as été brûlé. Puis justement, dans la perspective, parce que tu le mentionnes, des fois, c'est peut-être nécessaire de se faire brûler volontairement. Donc, tu as plusieurs cartouches, tu brûles la première, puis c'est volontaire, mais la deuxième et la troisième ne sont peut-être pas brûlables ou l'objectif n'est pas de brûler.
Il y a toujours le gut feeling en ingénierie sociale. À un moment donné, tu viens qu'à le sentir que tu n'es plus à ta place. Là. Tu viens qu'à le voir que la personne commence à se douter, autant dans ses yeux, dans son langage corporel, que c'est le temps de partir de là, parce que sinon, c'est fini. Au niveau technologique, ben la même principe que la Blue Team fait. Comment qu'elle fait pour savoir qu'elle se fait attaquer? Ils loguent tout puis ils mettent dans un CIEM. Ben, il y a des CIEM qui existent pour les Red Team. On peut juste penser à Red Elk qui existe où il est fait pour détecter, hey, ton trafic, là. Il y a une Blue Team qui essaie de trouver, dans le fond, qu'est-ce qu'il y aurait spécial, tu sais. Puis tu peux lier ça avec un peu d'automatisation ou si tu as mis un redirecteur qui est là juste pour, c'est de détecter ce genre d'événement-là, puis tout tes C2, toute ta campagne de phishing est derrière, est protégée. Tu fais juste rebuild le redirecteur, change ton nom de domaine, change ton IP. Tu peux continuer tes opérations. La Blue Team continue à taper sur quelque chose qui n'est plus existant, puis qui est parti dans le beurre. Puis toi, tu te retombes avec un nouveau CIEM, puis tu es juste à surveiller est-ce qu'un Blue Team va essayer de pogner mes adresses honeypot que j'ai mis pour voir s'il me détecte. Hein. Tu te mets soudainement à voir, je sais pas moi, Nicolas d'une équipe défensive qui commence à checker ma persona de profil de façon répétitive 2-3 fois, puis j'ai son collègue qui vient checker ma persona. Je peux m'attendre à ce que ma persona soit brûlée à ce niveau-là. Donc, il faut que tu sois alerte et que tu gardes tous ces petits éléments-là en note pour pas qu'un de tes collègues, après ça, reprenne le même stock puis qui se lance dans la gueule du loup puis qui se fasse manger. Là.
Ouais, ben c'est ça. Ça fait que tu dois appliquer les mêmes mesures de surveillance qu'un Blue Team doit faire. Fait que tu dois même toi-même te surveiller pour être sûr que tu ne te fasses pas repérer ou que tu ne te fasses pas retour d'investigation que toi-même, c'est toi qui te fais chercher ou qui te fais surveiller. Là.
Ah, les criminels traitent leur business littéralement en business, quoi. Fait que c'est une entreprise. Fait que de penser qu'ils n'appliquent pas des mesures de sécurité moindrement de leur côté est un peu farfelu. Je veux dire, ils surveillent leur instance aussi. À moins que c'est littéralement du smash and grab, qui est aussi très legit de faire dans certaines instances. Des fois, il y a un gros plus-value à faire un smash and grab. Mais ils vont s'organiser pour se pousser vite et loin dans cette situation-là. Tu sais, une red team, des fois, ton premier payload qui va rentrer, il y a de grosses chances que ça soit un smash and grab que tu vas faire. Pourquoi? Si l'équipe est moindrement montée au niveau de la défense, il y a des grandes chances que moindrement que tu te mettes à exécuter une commande, ils viennent qu'à te spotter. Parce que t'es réussi à rentrer, mais t'es totalement blind sur qu'est-ce qu'il y a dans l'infrastructure. L'EDR n'a pas encore trigger parce qu'il n'y a pas eu multiples événements pour t'associer. Tu as juste bypassé l'AV à ce niveau-là. Puis l'humain. Si tu fais un smash and grab de collecte d'informations, exfiltration, puis que tu es capable d'analyser ça puis d'attendre peut-être un mois plus tard pour rentrer de nouveau, là, tu vas venir être en mesure de « OK, je me suis préparé, je sais c'est quoi l'EDR, je sais comment le bypasser, je sais où est-ce que je voudrais essayer de m'en aller dans le système. » Puis tu peux commencer à avancer tranquillement à ce niveau-là. Mais je vais pas réutiliser les mêmes C2. Je vais avoir monté une infrastructure juste que je pogne, je collecte, je burn, puis on laisse la pression redescendre.
Oui, justement, c'est très, très intéressant cette différente stratégie-là qui peut être utilisée, puis justement se brûler volontairement pour quand même aller chercher l'information qui est pertinente. Moi, j'ai plus beaucoup de questions par rapport à ça. Y a-t-il des aspects qu'on n'a pas abordés que tu aimerais qu'on approfondisse?
Pas nécessairement, peut-être juste un autre mention qui est intéressant aussi du smash and grab, c'est des fois même pour ta deuxième attaque, ça peut être intéressant. On a vu des attaques dans des socs où si tu fais une attaque sur le site principal, tous les yeux se rivent sur « on se fait attaquer, c'est quoi? Ah, on réagit, tout le monde regarde là » et tu vas utiliser les informations que t'as eues pour aller pinpointer ailleurs, fait que tu rentres. Personne va te surveiller parce qu'ils sont tous sur la grosse attaque, surmontés de plein de logs. Fait que, encore une fois, on s'est caché dans la masse. Puis tu vas pouvoir continuer ton mandat à ce niveau-là.
Faire un tour de magie. Regarde par là pendant que je suis en train de te voler de l'autre côté. Fait que c'est oui.
Exactement.
Effectivement. Très intéressant. Merci énormément. Merci pour ton temps. Merci pour ta générosité parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont bénéficier de ce que tu as partagé. Un mot de la fin?
Ben écoute, ça me fait plaisir. J'ai hâte de pouvoir parler encore sur le sujet. C'est un sujet qui passionne. Les acteurs malicieux arrêtent pas d'innover sur ce truc-là. Fait que j'espère qu'on puisse commencer à parler entre nous de différentes tactiques ou de différents scénarios qu'on est capable d'appliquer chez nos clients. Parce que une imagination collective sur qu'est-ce qu'on peut faire, c'est la seule façon qu'on va être en mesure de rivaliser avec qu'est-ce qui est threat actor et la pensée criminelle. On pense des fois que c'est le bozo du coin qui commet les crimes, mais ils peuvent être très intelligents et très imaginatifs quand il s'agit de commettre un crime. Il faut être de la même façon puis de mettre nos ressources ensemble.
Effectivement. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.